Alors nous vous saluons les uns et les autres au nom du Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient multipliées de la part de Dieu votre Père, de notre Père, et de la part de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Bienvenue à tous ceux avec qui nous formons une grande communauté sur les ondes, donc, et par le moyen de ce culte donc enregistré, ce culte audio enregistré, en ce dimanche matin 15 mars, jour de la résurrection. C'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que je vous accueille ce matin sur ce site de l'Église. Soyez les bienvenus, vous qui êtes fatigués, vous qui perdez courage, vous qui désespérez de l'homme ou de Dieu lui-même, vous tous qui avez soif de justice et faim d'amour, réjouissez-vous ensemble car notre roi vient vers nous. Il veut nous soutenir en tout temps, il l'a déjà fait. Et ce matin, il veut encore porter, soutenir, libérer. Nous lisons le psaume du jour, qui est le psaume 95. Allons acclamer l'Éternel, lançons une joyeuse clameur vers le rocher de notre salut. Allons devant de lui pour le célébrer avec des psaumes, lançons vers lui une joyeuse clameur. Car l'Éternel, le Seigneur, un grand Dieu, grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Alors venez, prosternons-nous, courbons-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, le Seigneur qui nous a fait, car il est notre Dieu. Et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Meriba jadis, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, bien qu'ils aient vu mon action pendant 40 ans. J'eus cette génération d'égout, et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré, ils ne connaissent pas mes voies. Aussi je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Allons acclamer l'Éternel, lançons une joyeuse clameur vers le rocher de notre salut. Une prière de louange. Au-delà de qui nous sommes, au-delà de nous, tu es Dieu, tu restes Dieu. Au-delà du visible, au-delà de nos forces, au-delà de nos énergies, au-delà de nos faiblesses, de nos insuffisances, au-delà de nos manquements, de nos ratés, au-delà de nos péchés, au-delà du passé, du présent, tu es Dieu. Au-delà de ce qui se ferme ou de ce qui s'ouvre, au-delà de la souffrance, au-delà même de la mort, tu es la vie. Gloire à toi, Père Créateur, tu es un Dieu de grâce au-delà de tout. Gloire à toi, Jésus, Fils de Dieu. Nous élevons ton nom au-dessus de nous. Gloire à toi, Esprit du Père et du Fils, force et présence de Dieu en celui qui te désire et qui te cherche. Viens déployer, ô Dieu vivant, en nous cette vie qui ne finit pas. Agneau de Dieu, ta vie et ta mort parlent au-delà de notre propre mort. Ressuscité, tu réveilles notre foi pour que nous la placions en toi. Louange à ton nom. Toi qui es Dieu, au-delà de nous, au-delà de tout. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Éphésiens 2, 8. Amen. Nous ouvrons notre Bible pour poursuivre nos lectures et nos méditations, comme nous l'avons fait depuis quelques mois déjà, dans l'évangile de Marc. Alors nous sommes dans l'évangile de Marc, au chapitre 12, les versets 13 à 17. Marc 12, 13 à 17. Il s'agit de l'épisode de l'évangile qu'on appelle l'impôt à César. César étant l'empereur qui régnait donc à Rome et dans tout l'Empire romain. Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des hérodiens afin de le prendre au piège de ses propres paroles. Ils vinrent lui dire « Maître, Rabbi, nous savons que tu es vrai, que tu ne redoutes personne, que tu ne regardes pas l'apparence des hommes et que tu enseignes les voies de Dieu selon la vérité. Alors, est-il permis de payer l'impôt, le tribut à César, à l'empereur ? Et devons-nous payer ou ne pas payer ?» Jésus, qui connaissait leur hypocrisie, leur répondit « Pourquoi me mettez-vous à l'épreuve ? Apportez-moi un denier, afin que je le voie. » Ils en apportèrent un, tout petit. Et Jésus leur demanda « De qui sont cette effigie et cette inscription ?»« De César, de l'empereur, » lui répondirent-ils. Alors il leur dit « Rendez à César, rendez à l'empereur ce qui est à César, ce qui est à l'empereur, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils étaient dans l'étonnement à son sujet. Seigneur, ouvre-nous toi-même le Saint-Livre pour que nous puissions comprendre ce que tu veux nous dire ce matin. Amen. Alors, Dieu et César, on pourrait appeler cette prédication de ce titre. Et c'est une citation donc célèbre de Jésus dans le langage populaire, « Rendre à César ce qui est à César ». Même les gens qui ne connaissent pas la Bible, qui ne la lisent pas, eh bien ils connaissent un certain nombre de phrases qui viennent de la Bible. Et cette phrase, elle est assez connue, « Rendre à César ce qui est à César ». Et donc c'est un texte qui a suscité de nombreux débats sur Dieu, sur la politique, sur la séparation de l'Église et de l'État, etc. Mais c'est aussi une nouvelle joute oratoire, une nouvelle discussion à travers lesquelles Jésus montre une fois encore sa sagesse profonde. Et il nous montre dans ce passage son talent aussi dans l'art des réponses qu'il faut apporter dans des débats difficiles. Alors tout d'abord, on peut souligner, en revenant aux faits, qu'il y a là une étonnante coalition qui se forme. Quelques minutes plus tôt, Jésus a proposé la parabole des vignerons meurtriers. C'est ce que nous avons médité dimanche passé. Les interlocuteurs directs du Christ, les religieux, les pharisiens, étaient partis furieux. Ils étaient conscients que le Seigneur venait de les pointer du doigt. Alors ils reviennent maintenant à la charge. Indirectement cette fois, en envoyant des pharisiens et des hérodiens pour tester, pour piéger Jésus, si c'est possible. Alors il est intéressant de noter que les religieux envoient auprès de Jésus des pharisiens et des hérodiens. Alors, ça demande une petite explication. C'est une coalition étonnante. Les pharisiens appartiennent au parti religieux, ils suivent la morale, ils essayent de mettre en pratique un certain nombre de commandements, ils en rajoutent même. Et les Hérodiens sont tout le contraire. Les Hérodiens sont plutôt des partisans politiques qui soutiennent la famille d'Hérode, un roi cruel. C'est des gens sans principe. Et donc Hérode n'est pas très apprécié par le pouvoir religieux, et réciproquement. Mais ça n'empêche pas les ennemis de Jésus de se mettre ensemble, de s'allier, de faire une alliance contre nature pour le faire tomber. Ils sont prêts à tout. Même ces gens qui ne savent pas se voir, ils sont prêts à se réunir, à faire cause commune, pourvu qu'ils puissent faire tomber Jésus. C'est exactement ce qui va se passer quand Jésus va être crucifié lors du procès de Jésus. Eh bien, toutes sortes de gens qui ne s'entendent pas vont se mettre d'accord pour le juger et pour le crucifier. Et donc la question de l'impôt est vraiment un nouveau prétexte pour coincer Jésus dans une prise de position qui pourrait lui être reprochée. Depuis que les Romains occupent Israël, c'est-à-dire depuis l'an 63, depuis que Pompée a soumis Jérusalem, eh bien les Juifs paie un impôt spécial à Rome. Ce n'est pas vraiment une question nouvelle. Hein, ça fait presque 100 ans, hein, quand ce récit prend place, que les Juifs payent un impôt à Rome. Alors, il y a plusieurs tendances. Plus proche du pouvoir romain, les Hérodiens devaient être d'accord pour payer cet impôt. Et ils n'avaient pas attendu l'avis de Jésus pour le faire. Et puis les pharisiens n'avaient pas de position très claire ou connue. Mais leur haine à l'encontre de l'occupant païen ne devait pas les disposer très positivement à payer l'impôt à Rome. Chacun des deux partis avait son opinion. L'avis du Seigneur Jésus ne devait pas les faire évoluer dans un sens ou dans un autre. Il pose une question, mais ce n'est pas pour avoir une réponse, c'est pour piéger Jésus. Ils sont sûrs à 100% de le piéger. Ils ont trouvé le piège parfait. Alors maintenant, on peut dire que on parle de flatterie maintenant. Marc nous le dit dès le début, il y a chez les questionneurs une terrible hypocrisie qui se cache à peine derrière les propos flatteurs, excessivement flatteurs et perfides, hein, qu'ils mettent en avant. Jean de La Fontaine, hein, tous les grands comme les petits ont appris des fables de Jean de La Fontaine, le corbeau et le renard, hein, et ça se termine par « tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute ». Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. Ici, on pourrait dire « tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute, cette leçon vaut bien un denier, hein, sans doute ». Eh bien, on voit la flatterie. Hein. « Maître, nous savons que tu es vrai, que tu ne redoutes personne, car tu ne regardes pas l'apparence des hommes, et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. » Là, vraiment, hein, ils en rajoutent. Il est clair que les pharisiens et les hérodiens ne croient même pas un instant à tout ce qu'ils viennent de dire, à tout ce qu'ils sont en train de dire. Et pourtant, sans le savoir, ils disent la vérité, ils disent des vérités sur Jésus. Jésus est vraiment un maître qui ne ment pas. Jésus est vraiment quelqu'un qui ne se laisse pas impressionner par les personnes et par les statuts, les positions sociales. Jésus est vraiment quelqu'un qui enseigne parfaitement la voie royale et divine. L'enrobage est joli, mais il est fait pour endormir Jésus, si du moins Jésus se laisse impressionner, s'il est habité par la vanité, s'il est prêt à accepter la flatterie. Mais il n'est pas comme ça. Et après ce préambule onctueux, trop onctueux pour être honnête, il y a la question perfide. Est-il permis de payer le tribut à César? Devons-nous payer ou ne pas payer? Oui ou non? Jésus est sommé de répondre. Et dans le langage de ces gens, est-il permis, ça veut dire, selon la loi Moïse, et donc selon Dieu, est-il permis de faire ceci ou cela? Alors, s'il répond non, il est piégé. S'il répond non, eh bien, il risque de gros ennuis avec le pouvoir romain. Et les Romains n'accepteront certainement pas qu'on puisse librement inciter la population à ne pas payer d'impôts. Jésus aurait même pu être exécuté pour trahison. Et alors, s'il répond oui, ben c'est pareil, il perdra la confiance, cette fois, du peuple. Et sa popularité va décliner rapidement. Beaucoup de Juifs ordinaires avaient des réticences humaines à payer l'impôt, sans compter leurs objections de conscience. Comment un Juif consciencieux pouvait-il payer l'impôt qui portait l'effigie de l'empereur et qui, sur laquelle, une pièce sur laquelle il était marqué que l'empereur était Dieu. Donc, Jésus n'est pas dupe. Et l'évangéliste Marc nous le dit. Il sait que ces gens ne sont pas sincères. Et il les interroge directement. Pourquoi m'éprouvez-vous? Pourquoi me tentez-vous? Jésus a été éprouvé, tenté de diverses façons, de tous les côtés, à des moments où il pouvait s'y attendre, à des moments où il ne pouvait pas s'y attendre, comme ça nous arrive également aussi. Et là, on le voit, il est tenté ici, à ce moment-là, de façon très, très brutale. Et donc, Jésus plutôt, en disant cela, reproche l'intention et l'attitude des pharisiens et des hérodiens. Il témoigne aussi qu'il ne se laisse pas désarçonner par ces hommes qui le flattent, mais qui lui mettent aussi une peau de banane sous les pieds. Et avant que les pharisiens et les hérodiens ne répliquent, il fait une demande. « Apportez-moi un denier, afin que je le voie. » Et donc Jésus demande une pièce, parce qu'il n'avait sans doute pas cette pièce sur lui. Sans doute parce que Jésus, respectueux de la loi, n'avait pas de pièce romaine sur lui, portant l'effigie de l'empereur de Rome. Et en demandant qu'on lui apporte une pièce, il oblige ses questionneurs à montrer que eux, ils ont cet argent dans la poche. Et donc, ils démontrent leur hypocrisie. Et en tout cas, les pharisiens et les hérodiens lui donnent aussitôt le denier demandé. Alors, il dit, de qui sont cette effigie et cette inscription ? Du temps de l'empereur Tibère, qui était l'empereur à l'époque de Jésus, la pièce, le denier romain, avait sur le côté face la tête de Tibère, l'empereur, avec l'inscription « Tibère César, fils du divin Auguste ». Et sur le côté pile, il était inscrit « Pontife suprême de toutes les religions ». Et donc la question de Jésus suscite une réponse immédiate et évidente, de César, de l'empereur. Et Jésus répond « Eh bien, rendez à César ce qui est à César ». Cette première partie de la réponse semble dire ce qu'il faut faire. Et Jésus semble dire « Payez l'impôt ». La deuxième partie de la réponse est totalement inattendue. « Rendez à Dieu ce qui est à Dieu ». La question des pharisiens et des hérodiens portait sur un problème bassement matériel, dans lequel Dieu n'avait jamais été évoqué jusqu'alors. Alors pourquoi apporter cet élément nouveau et parler de Dieu, si ce n'est que Dieu est en fait la vraie réponse à la question. En fait, Jésus ne répond pas à l'interrogation telle qu'elle a été posée. Il veut élargir le propos. Jésus échappe au piège qui voulait l'enfermer dans une sphère politique. Il conduit le débat sur un autre niveau. De la politique, il passe à la théologie, on va dire, à la Bible. Et il dit que c'est en portant la question sur le plan biblique, théologique, que l'on va peut-être savoir ce qu'il convient de faire. En fait, Jésus ne donne pas une réponse pratique qui serait de payer ou de ne pas payer l'impôt, mais il souhaite que chacun puisse construire sa réponse en confrontant les prétentions de l'empereur et celles de Dieu. Et cela, il faut le rappeler, dans le contexte croyant. Car il ne faut pas oublier que le débat se fait dans le temple et qu'on ne parle pas de n'importe quel impôt, mais il s'agit de payer un impôt à une puissance étrangère, une puissance d'occupation, une puissance païenne, selon le critère d'Israël. Donc le culte qui est rendu à César, un peu partout dans l'Empire romain, n'est pas supportable pour le vrai croyant, et encore moins au cœur du temple. Pour Jésus, la seule chose qui appartienne vraiment à César, c'est la pièce à son effigie. Le reste, tout le reste appartient à Dieu. Et c'est là que les mots ont beaucoup d'importance maintenant. Jésus va certainement encore plus loin dans son analyse, dans sa perception des choses. Il suffit pour s'en convaincre de noter comment il a posé la question. De qui sont cette effigie et cette inscription ? Les mots effigie et inscription sont lourds de sens. Lorsque Jésus utilise le mot « effigie », il utilise le même mot que l'on trouve dans le texte fondateur de la Genèse. « Dieu créa l'homme à son effigie et créa l'homme à son image, à sa ressemblance. » Ainsi, donc, Jésus dit « Si l'effigie, l'image est de César, de l'empereur, il ne faut pas oublier que César, l'empereur, est comme tout homme à l'effigie de Dieu, créé à l'image de Dieu. » C'est l'image de l'empereur, mais l'empereur est lui-même l'image de Dieu. Il ne faut pas s'arrêter à l'empereur. Au-delà de l'empereur, il y a Dieu. Et cette idée, on la trouvera plus tard lorsque Jésus sera devant Pilate, le représentant de l'empereur. Et Pilate rappellera son pouvoir Et Jésus lui dira, tu n'aurais pas le pouvoir que tu as si mon Père qui est dans les cieux ne te l'avait accordé. Si mon Père qui est plus grand que l'empereur ne te l'avait accordé. Oui, la pièce est à César, mais César est à Dieu. Et les pharisiens et les hérodiens avaient bien dit que Jésus ne regardait pas à l'apparence. Alors ne nous arrêtons pas à l'apparence de César, de l'empereur, ne nous arrêtons pas en chemin et regardons encore plus loin. Et Jésus dit, de qui sont cette inscription ? Il ajoute. De la même manière que le mot effigie, le mot inscription prend des racines dans toute la Bible. C'est un mot rare et c'est celui qui parle de l'écriture. Je cite deux passages de l'Ancien Testament où le mot inscription est un appel à adhérer entièrement à Dieu. Garde mes commandements, Proverbe 7, afin que tu vives et mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Attache-les sur tes doigts, inscris-les sur la table de ton cœur, Proverbe 7, 2, 3. Et puis Jérémie 31, 33. Voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël dans ces jours-là. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'inscrirai, j'en mettrai l'inscription sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Donc, on voit bien avec ces mots que ce que Jésus veut souligner. Encore une fois, Jésus décentre le problème pour lui offrir un tout autre espace. Il faut regarder autrement l'effigie et les inscriptions de César. Il faut rendre à chacun ce qui lui revient, mais pas en faisant une séparation. D'un côté, César, le monde politique, donc, et le monde temporel, et de l'autre, Dieu, le monde spirituel, le monde éternel. Il y a beaucoup de gens qui font cette séparation comme ça. Il ne faut pas faire ça. Il faut juste se souvenir que César est inscrit en Dieu. Que le monde politique est inscrit dans le monde spirituel. Que le monde temporel est inscrit dans le monde éternel. Alors ce qui étonne les interlocuteurs de Jésus, c'est de n'avoir pas une règle simple à suivre qui serait « est-ce que je paie l'impôt, oui ou non ?» Ce qui étonne ces questionneurs, c'est d'être finalement renvoyé chacun à sa responsabilité, à sa conscience, à sa lecture du temps dans lequel il vit, et de juger les pouvoirs politiques et de leurs légitimes exigences face aux exigences de Dieu. Alors, que retenir d'important dans un tel texte ? Et ensuite, voyons les aspects pratiques, pour finir. Alors, que retenir de plus important dans un tel texte ? Eh bien, il faut retenir qu'il n'y a pas plusieurs mondes. Il n'y a pas d'un côté le monde politique et de l'autre côté le monde de Dieu. C'est vrai qu'en apparence, il existe un domaine politique et un domaine spirituel, entre autres. Mais aucun domaine n'échappe à Dieu. Voilà ce que dit Jésus. Aucun domaine n'échappe à Dieu puisque même César est à l'image de Dieu. Séparer les mondes, c'est empêcher d'être Dieu en tout. Et Dieu veut être notre Dieu en tout et dans tous les domaines. Ce serait séparer les mondes, ce serait établir un César sur un domaine qui ne serait pas de la compétence de Dieu. Ce serait dire César est l'empereur là et Dieu est chef là. Non, Dieu est chef partout. Exclure Dieu d'un domaine de la vie, c'est tout simplement réduire Dieu et du coup autoriser l'idolâtrie. Mais il y a un autre clin d'œil. L'impôt dont il est question était celui versé à une puissance étrangère, une puissance païenne. Et donc, si on voulait faire un rapport avec nous aujourd'hui, on pourrait dire que le chrétien est dans le monde comme le juif était dans le monde romain. Le chrétien se pose dans le monde parfois la question de savoir jusqu'où il doit accepter cette domination du monde, sur sa vie, sur ses actes, sur sa foi, cette domination de la société sur sa vie. Sur ses actes, sur sa foi, jusqu'où il doit accepter. Dans ce contexte, l'important n'est pas de savoir s'il est collaborateur ou résistant, en payant ou en ne payant pas un impôt. L'important est de savoir si Dieu est Dieu dans sa vie, sans qu'un César lui fasse de l'ombre. L'important est de savoir si le chrétien est avant tout fidèle dans sa vie à Dieu, d'une fidélité qui l'emporte sur tous les autres. Non qu'ils doivent renoncer à être fidèles à l'empereur, au pouvoir politique, Il doit seulement savoir que la part la plus importante de sa vie échappe au pouvoir politique. Le pouvoir politique, s'il s'aventure dans le domaine de Dieu, ne peut exiger qu'on le suive comme ça, aveuglément. L'important, c'est ce qui est inscrit sur son cœur, sur mon cœur, sur notre cœur de chrétien. Ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas un paiement extérieur à nous-mêmes, serait-ce l'obéissance à une loi. L'important, c'est que nous nous offrions pleinement à Dieu de tout notre cœur. Ce qui ne sera pas un sacrifice démesuré, puisque nous lui appartenons. Nous lui appartenons parce qu'il nous a créés, nous lui appartenons parce qu'il nous a rachetés totalement. Et on peut dire, oui Seigneur, mais pourquoi tant de résistance en moi lorsqu'il s'agit de tout te donner, de me donner entièrement à toi? Alors pratiquement, alors rendez à César ce qui est à César, ça signifie donner à César ce que Dieu lui-même veut qu'il soit donné à César. Donner au pouvoir politique ce que Dieu veut qu'il soit donné au pouvoir politique. C'est Dieu le souverain, c'est Dieu le souverain ultime de tout. Nous ne sommes pas divisés entre deux appartenances. Nous ne sommes pas contraints de servir deux maîtres. Le chrétien est libre d'obéir à l'État, et il le fait volontairement. Mais il est également libre de lui résister lorsque l'État se met contre Dieu et contre sa loi. Il n'est pas juste, comme l'ont fait les criminels nazis, entre autres, d'invoquer le principe de l'ordre reçu des supérieurs. Ils disaient « nous n'avons fait qu'obéir ». On ne peut rien nous reprocher. Non, il n'est pas juste de dire ça, comme ont pris l'habitude de le faire les responsables des crimes de guerre dans les tribunaux encore aujourd'hui. Avant d'obéir aux hommes, il faut obéir à Dieu et à sa conscience. On ne peut pas donner à César l'âme qui appartient à Dieu. Voilà ce que dit clairement la Bible, ici et ailleurs. Alors, payer honnêtement des impôts pour un chrétien, et pour toute personne honnête, est un devoir de justice, un devoir de conscience. Ça garantit l'ordre, ça garantit le commerce, ça garantit les services, et ça garantit les hôpitaux. L'État donne aux citoyens une chose pour laquelle il a droit à une contrepartie, précisément, pour pouvoir continuer à rendre de tels services. Et la collaboration des chrétiens, elle a construit, mais ça ne s'arrête pas là, notre participation à la vie de l'État. La collaboration des chrétiens, la construction d'une société juste et pacifique ne se limite pas à payer des impôts. Elle doit également s'étendre à la promotion des valeurs communes, comme la famille. C'est la famille qui construit notre État aussi. La défense de la vie, la solidarité avec les plus pauvres, la paix, la démocratie, la participation aux élections. Tout ça, eh bien, c'est aussi important que de payer des impôts et ça permet de construire une société juste et pacifique. C'est notre devoir. Mais les chrétiens devraient encore faire autre chose. Les chrétiens devraient apporter une contribution plus efficace encore à la construction d'une société juste et pacifique. Dans le domaine des méthodes, du style de la politique, le chrétien doit contribuer à désenvenimer le climat politique. Nous vivons dans un climat politique de disputes perpétuelles, où chacun donne des arguments, parfois très très forts, qui détruit l'autre. Et le chrétien doit contribuer à désenvenimer le climat de disputes perpétuelles. Il doit ramener davantage de respect, de dignité dans les relations entre les partis. Respect du prochain, douceur, capacité d'autocritique sont des éléments qu'un disciple de Jésus-Christ doit apporter dans tous les domaines. Dans le domaine du travail, dans le domaine de ses relations, mais aussi dans le domaine de la politique. Se laisser aller aux insultes, au sarcasme, à l'ironie, à la bagarre contre l'adversaire est indigne d'un chrétien. Si, comme le dit Jésus, celui qui dit à son frère « stupide, raca » sera condamné à la géhenne, qu'en sera-t-il de nombreux hommes et femmes politiques? Donc là aussi, le chrétien fait sa part de citoyen en désenvenimant ce climat-là. Alors, dernière question, le chrétien peut-il être un serviteur de l'État? Certainement. comme Daniel l'a été. Hein. Joseph aussi, hein, grand serviteur de Dieu, l'a été. Mais avec des limites toujours. Des limites, c'est les limites de l'obéissance à Dieu. L'obéissance à Dieu va toujours primer. Daniel a préféré être jeté dans la fosse aux lions hein, plutôt que de cesser de rendre un culte au Seigneur de l'univers. Toujours mettre Dieu à la première place. Voilà ce qu'il faut retenir. Si une autorité renie le Seigneur, elle doit être combattue sans hésitation, par la force si nécessaire. Et des chrétiens l'ont fait, avec courage, comme ultime recours. Quant aux autorités, elles ne reçoivent jamais une carte blanche pour agir. Mais elles doivent toujours être des intermédiaires dignes du Seigneur qu'elles représentent par délégation. Alors concluons. D'abord, il faut rendre à Dieu ce qui est à Dieu, c'est-à-dire s'offrir soi-même de tout son cœur à lui. C'est déjà être citoyen du royaume de Dieu. Et puis, il faut rendre à César, à l'État, ce qui lui appartient. Et ça nous invite à ne pas négliger notre appartenance à ce monde, à respecter les autorités, parce que nous désirons aimer notre prochain. Mais, quand il y a tension, hein, eh bien, il y a forcément des tensions entre les deux. Hein. Que dans cette tension, nous avons besoin, hein. Le texte nous dit que nous avons besoin de recevoir chaque jour l'éclairage qui vient de Dieu pour discerner sa volonté. Jésus a discerné la volonté de Dieu avec cette parole de sagesse. Et nous pouvons nous approcher de lui aujourd'hui pour recevoir de lui la même sagesse, pour discerner dans le temps dans lequel nous vivons comment rendre à Dieu ce qui est à Dieu et comment rendre à César ce qui est à César. Amen. Alors, c'est un culte un peu particulier, puisqu'on on est censé ne pas faire de culte, donc on ne fait que l'enregistrement. Mais donc on va joindre une prière pour l'offrande, qu'on ne fait pas d'offrande non plus. Nous sommes invités à transmettre notre offrande. On peut faire une offrande, mais je veux dire, on est censé transmettre notre offrande à l'Église d'une façon ou d'une autre. Il y a tant de façons de transmettre cette offrande au cours de la semaine. Je ne doute pas qu'on va trouver la façon de le faire. Alors, pour toutes ces offrandes qui participent à la vie de l'Église, eh bien, nous voulons dire merci, merci au Seigneur. Notre participation à l'offrande, que nous pourrons mettre en œuvre d'une façon ou d'une autre au cours de cette semaine, est un geste de responsabilité, de libération. Nous reconnaissons que nous sommes chacun pour notre part responsables du bon fonctionnement de l'Église, même dans les circonstances particulières par lesquelles nous passons, et que pour cette raison, nous y consacrons une part de nos biens. Nous reconnaissons qu'il est le libérateur, qu'il est libérateur au travers de nos dons, de nous détacher de l'argent, des illusions qu'il produit, sachant, comme l'a écrit l'apôtre Paul, que nous n'avons rien à apporter dans ce monde, que nous n'en pouvons rien emporter non plus. Et à la lumière de l'éternité, notre don prend toute sa valeur. Nous voulons transmettre simplement les sujets d'intercession. Nous allons nous prier maintenant pour le monde et pour tous ceux qui ont à gérer la crise difficile par laquelle nous passons. Et nous terminerons ainsi notre culte. Nous prions pour nos frères et sœurs en Christ qui ont été touchés par l'épidémie du Covid-19. Nous prions qu'ils connaissent l'amour puissant et inaltérable de Dieu. Nous prions pour les pays actuellement les plus affectés, la Chine, l'Italie, l'Iran, la Corée du Sud, l'Espagne, l'Allemagne, les États-Unis et notre propre pays, la France. Nous prions pour ceux qui sont pris par l'angoisse et la crainte. Nous prions pour ceux qui se sentent vulnérables, qui ont peur. Nous prions que l'amour de Dieu leur soit source d'apaisement, qu'ils sachent que même dans les moments les plus sombres de la vie, l'amour de Dieu est porteur d'espérance. Nous prions pour les personnes isolées, vulnérables, dans notre voisinage, dans nos lieux de vie. Nous prions pour ceux qui sont en isolement. Nous prions pour les personnes âgées qui se font du souci pour leurs courses, leurs rendez-vous médicaux, leurs contacts. Nous prions, nous présentons à Dieu toutes les activités et les autres aides sociales que nos églises proposent aux plus vulnérables. Nous prions pour que les responsables d'église puissent, avec sagesse, trouver comment permettre le maintien de la communauté fraternelle et préserver la sécurité dans ces moments difficiles. Nous prions pour le personnel médical. Dans nos assemblées, nous prions que Dieu soit leur bouclier, leur force. Nous prions pour nos responsables politiques mondiaux et les responsables politiques de notre pays. Nous prions pour ceux qui, à travers le monde, dirigent les recherches scientifiques sur le Covid-19 et son traitement. Nous prions pour le peuple de Dieu en ces temps difficiles. Nous prions pour nos missionnaires, Nathan et Loïs Minard, leur enfant au Cameroun, Alice et Pafon Séli en Thaïlande, Delphine et Timothée Minard et leurs enfants à Madagascar, Ertan et Marlène Sevik en Turquie. Nous prions pour tous ceux qui dans le monde font face chaque jour aux difficultés. Nous prions pour ceux qui connaissent la guerre, ceux qui connaissent la faim, pour ceux qui sont malades, ceux qui souffrent, par exemple, de la malaria. Nous reconnaissons enfin que le Seigneur est souverain de toutes choses et nous prions avec les paroles de Paul dans la lettre aux Éphésiens. « C'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père, dont dépendent toutes les générations dans les lieux, dans les cieux et sur la terre. Je lui demande que selon la richesse de sa gloire, il fortifie votre être intérieur par la puissance de son Esprit Saint, que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Et je demande que vous soyez enracinés, solidement établis dans l'amour. Ainsi, vous aurez la force de comprendre avec tous ceux qui appartiennent à Dieu combien l'amour du Christ est large et long, haut et profond. Et vous connaîtrez alors son amour, bien qu'il surpasse toute connaissance. Et vous serez ainsi comblés de toute la plénitude de Dieu. » Ensemble, nous nous unissons pour prier le Notre Père. Dans un même amour pour toi et à cause de ton amour, nous te prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. À tous que la paix et la grâce nous soient multipliées et nous accompagnent tout au long de cette nouvelle semaine. Amen.